Chers frères et sœurs, cet après-midi, nous sommes au Cénacle, la chambre haute, où Jésus avait institué l'Eucharistie avec ses disciples, cette Eucharistie que nous célébrons cet après-midi, comme chaque dimanche, qui nous rassemble. Nous sommes au Cénacle où Jésus, le soir du premier jour de la semaine, après avoir été livré aux Juifs, condamné à mort, crucifié et mis au tombeau, est ressuscité et se trouvait là, au milieu de ses disciples, alors que les portes étaient bien verrouillées, qu'ils étaient eux-mêmes verrouillés dans leur cœur. Ne l'avait-il pas abandonné? Ne l'avait-il pas renié? Ne l'avait-il pas trahi, celui qui leur avait fait confiance et qui avait fait d'eux ses amis? Et la première parole qu'il prononce, que nous venons d'entendre dans l'Évangile, qui vient d'être proclamée, c'est « La paix soit avec vous ». Cette parole par laquelle, en saluant l'Assemblée, j'ai introduit cette célébration « La paix soit avec vous ». C'est la paix cet après-midi que Jésus nous donne, une parole de pardon, une parole de réconciliation, une parole de communion. Nous sommes au Cénacle, alors que dans cette même chambre haute, 50 jours plus tard, au jour dit de la Pentecôte, alors que les apôtres étaient rassemblés à nouveau dans ce lieu où ils avaient l'habitude de prier ensemble, mais avec des disciples de la première heure, hommes et femmes, ils étaient 120. C'est providentiel, non? Vous êtes 120, 122, 120. Comme au jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans. Là aussi, les portes étaient bien verrouillées. Jésus était monté au ciel. Il se sentait comme orphelin. Il n'en menait pas large. Ils n'avaient pas compris ces paroles de Jésus qui leur avait promis une force. « Venu d'en haut, vous recevrez. L'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Et voilà qu'alors qu'ils étaient rassemblés tous ensemble, avec quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères, les disciples de la première heure, il y eut un grand coup de vent. Un feu descendit du ciel et se répartit sur la tête de chacun sous forme de langue. Ces signes miraculeux qui ont accompagné la première effusion de l'Esprit Saint, qui se reproduiront d'une manière sans doute moins spectaculaire, mais plus mystérieuse dans votre cœur dans quelques instants, chers confirmants. Comme disait Saint Jean-Paul II, qui nous a quittés maintenant il y a 21 ans à des confirmants adultes, votre confirmation d'aujourd'hui, c'est votre Pentecôte pour la vie. Ce qui s'est passé pour les disciples de la première heure va se réaliser aujourd'hui. Cette parole de Jésus au soir de Pâques qui s'est accomplie pour ses 120 disciples au Cénacle du jour de la Pentecôte, recevez l'Esprit Saint, va se réaliser en vous. Et je sais que vous attendez ce moment. Et je sais que vous avez conscience de cette grâce qui vous est faite aujourd'hui. J'ai en effet lu vos lettres, vous imaginez bien, 120 lettres. Hein. Pas comme des lettres d'enfants où il y a 10 lignes, 20 lignes, mais parfois 2 pages, 3 pages. C'est toute l'histoire d'une vie. Et je peux vous dire que je les ai lues avec attention et avec émotion. J'ai pensé, en lisant vos lettres, à cette prophétie d'Ézéchiel, lorsqu'il voit dans une vallée des ossements desséchés, et Dieu qui lui dit « Prophétise sur ces ossements, appelle l'Esprit !» Et voici que les nerfs et les chairs se reconstituaient, et ils étaient debout, ressuscités. J'ai compris dans vos lettres que pour beaucoup d'entre vous, le Seigneur est venu vous chercher alors que vous étiez égarés, alors peut-être même que vous étiez disloqués dans votre humanité. et il est venu refaire vos nerfs, refaire votre chair. Il est venu vous donner aujourd'hui un esprit de vie pour faire de vous des vivants comme le Christ ressuscité. Et vous avez entendu le psaume. Tu envoies ton souffle et tout est créé. Tu renouvelles la face de la terre. Et je dirais même, tu renouvelles la face de l'Église. J'ai la conviction, chers frères et sœurs, en lisant vos lettres, en vous voyant aujourd'hui toujours plus nombreux, chaque année, à recommencer un chemin de foi, à demander ce sacrement de la confirmation, comme je le vois pour les catéchumènes de plus en plus nombreux, pour la plupart jeunes, qui frappent à la porte de l'Église et qui trouvent enfin celui qui est le chemin, la vérité et la vie. J'ai la conviction que par vous, le Seigneur renouvelle son Église. Prenez votre place dans l'Église. Vous devenez des membres à part entière de l'Église. Vous me le dites dans vos lettres. Je veux être confirmé pour renforcer mon lien à l'Église. L'Église qui est un corps, comme saint Paul vient de nous le dire dans la deuxième lecture, dont nous sommes les membres, dont il est la tête et dont l'âme est précisément l'Esprit-Saint. Vous recevez une mission. Vous avez une place à occuper dans l'Église. Pour que l'Église soit le signe éloquent de l'amour de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Peut-être que certains qui sont plus jeunes et qui ne sont pas encore fixés dans leur état de vie sont appelés à devenir prêtres, consacrés, fonder un mariage et un foyer chrétien. Si un membre de l'Église manque au corps, c'est le corps qui est désarticulé. C'est le corps qui n'est plus en bonne santé et qui manque de cohésion. Gardez votre place dans l'Église, prenez votre place dans l'Église et pour la part d'Esprit Saint qui vous est donnée, accomplissez la mission que Jésus vous confie. Quand je lis vos lettres, je vois qu'il y a des constantes, même si l'itinéraire de chacun est unique et singulier. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous avez été baptisé tout petit, été catéchisé, fait votre première communion, et puis est venu un moment porté par un monde précisément qui n'est plus porteur, ou peut-être à cause d'une épreuve, vous vous êtes égaré, écarté, éloigné de la foi. Pour d'autres, vous avez grandi dans des familles qui pouvait être indifférente au mieux, voire hostile et antireligieuse, comme vous l'avez écrit dans vos lettres. Mais tous, c'est d'une manière souvent inattendue, et en particulier à travers des épreuves, parfois de lourdes épreuves, que le Seigneur s'est manifesté, qu'il est venu dans votre vie, qu'il a fait irruption dans votre histoire, de telle sorte que vous ne pouviez pas l'éviter. Je lis par exemple, ma rencontre avec le Christ s'est faite au cœur de l'épreuve. Dieu m'a sauvé. Quand j'étais au plus bas, dit quelqu'un d'autre, je me suis tourné vers le Seigneur et lui, il m'a aidé. Une expérience peut-être plus particulière. Au Saint-Sépulcre, j'ai senti un champ magnétique me traverser le corps. Puis j'ai senti physiquement la présence du Christ à mes côtés. Et pourtant, il m'a fallu du temps pour l'admettre. Tant mon esprit cartésien et scientifique refusait l'évidence. Car pour certains d'entre vous, ce fut comme pour saint Paul sur le chemin de Damas, une grâce qui a bouleversé d'un seul coup votre vie. Pour d'autres, il a fallu des étapes, des pas, comme le dit l'une d'entre vous. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, jusqu'à ce que le Christ vivant finisse par s'imposer dans votre vie. L'Esprit Saint que vous allez recevoir dans ce sacrement va venir confirmer, comme son nom l'indique, affermir, faire grandir, consolider ce premier don que vous avez reçu au jour de votre baptême. Et ce don, c'est la foi. Vous le dites dans vos lettres d'une manière générale, cette foi qui a été déposée dans votre cœur et qui est ranimée aujourd'hui par le don de l'Esprit-Saint, selon cette belle image que j'ai lue dans une lettre. La foi, une semence, comme une braise qui ne s'éteint jamais vraiment et qui attend le feu de l'Esprit-Saint pour être ranimée, embraser votre cœur, embraser votre vie. Sans doute que la foi est une connaissance, et pour beaucoup, vous avez fait l'expérience que Jésus est vraiment, comme il le dit lui-même à ses disciples, le chemin, la vérité et la vie. Vous avez eu un grand désir d'apprendre, de connaître, à travers la parole de Dieu en particulier. Vous êtes plongé dans les Saintes Écritures, vous avez lu la Bible, vous êtes ouvert toujours davantage à la parole de Dieu, cette parole qui vous révèle non seulement ce qu'est Dieu, mais ce qu'il est dans votre vie, concrètement. Comment vous pouvez, à la lumière de la parole de Dieu, relire votre histoire et voir comment, même lorsque vous étiez éloigné, Dieu ne vous avait pas abandonné. Il était présent. C'est lui qui vous conduisait et c'est lui qui vous fait faire l'expérience de son agir concret dans votre vie. Vous avez suivi des cours de catéchisme pour adultes et c'est important pour un fidèle qui veut continuer à comprendre le mystère de sa foi, vous tous, chers frères et sœurs, de continuer à approfondir votre foi par tout ce que l'Église vous propose à travers son catéchisme, le catéchisme de l'Église catholique qui devrait être, avec les Saintes Écritures, le livre de chevet du chrétien qui veut vraiment devenir un adulte dans la foi. Mais la foi est bien plus qu'une connaissance. Vous en avez fait l'expérience et c'est sans doute ce qui est le plus touchant et le plus décisif dans votre démarche. C'est une relation d'amitié personnelle avec Jésus. Jésus qui vient à votre rencontre, Jésus qui vous recherche et qui veut faire de vous ses amis. Je lis dans une lettre, « Dieu recherche une relation avec moi ». J'ai compris qu'il fallait remettre Dieu au centre de notre vie, de notre famille, de notre couple. Le sacrement de la confirmation, me dit un autre, approfondira, consolidera ma relation avec Dieu. Vous savez comment cette amitié avec Jésus se cultive, comme vous en avez d'ailleurs déjà l'expérience. Mais le Seigneur veut vous donner l'esprit de persévérance et de fidélité, quels que soient les moments arides de votre vie, quelles que soient les épreuves que vous connaîtrez encore. Le premier moyen, c'est la prière. La prière par laquelle nous entrons en relation intime avec ce Dieu qui nous aime. Je lis dans vos lettres, « J'ai une grande vie de prière. Sans prière, je ne peux pas vivre. Dieu est devenu celui à qui je peux tout dire, sans crainte d'être jugé. J'ai ressenti dans la prière que quelqu'un a veillé sur moi, qu'il m'a aimé et qu'il ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur m'a touché au plus profond de mon cœur. Je lis encore, le Seigneur a réconforté mon cœur meurtri. Le deuxième moyen pour cultiver cette amitié avec Jésus dans la durée, c'est l'Eucharistie. Il y en a parmi vous qui vont faire leur première communion. C'est magnifique. Nous sommes baptisés et confirmés pour participer pleinement à l'Eucharistie de manière consciente, active, fructueuse dans notre vie. L'Eucharistie dominicale, qui sans doute est un précepte et qui est toujours d'actualité, ce précepte. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu iras à la messe tous les dimanches. Tu fais partie d'un corps et tu dois prendre ta place dans ce corps. C'est physique, le corps du Christ. Et si tu manques à ce corps, encore une fois, c'est le corps tout entier qui est en mauvaise santé et qui est désarticulé. L'Eucharistie n'est pas seulement obligatoire, elle est plus que cela, elle est vitale. Jésus a dit lui-même dans ce discours du pain de vie au chapitre 6 de saint Jean, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a au présent la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Qui d'entre nous, chers frères et sœurs, n'a pas le désir d'avoir la vie éternelle qui est commencée dès lors que je communie au corps du Christ? Il n'y a pas de relation plus intime et plus intense avec Jésus que l'Eucharistie. Lui qui a dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. » Enfin, le troisième moyen de cultiver, d'approfondir cette amitié, de la rendre durable, c'est la confession. Certains d'entre vous me le dites, j'expérimente la confession. La confession à laquelle j'avais du mal à aller est devenue source d'apaisement et de joie. C'est par la confession que ma foi grandit. Nous avons besoin de ce sacrement pour renouveler sans cesse lorsque nous sommes tentés de tourner le dos au Seigneur par les événements de notre existence, les aléas de notre vie, pour renouveler par le pardon du Seigneur qui nous est toujours offert ces forces spirituelles que le Christ Jésus a mises en vous au jour de votre baptême et qui plus est, renforce en vous au jour de votre confirmation. Enfin, la foi est un agir. Et pas n'importe quel agir, vous l'avez bien compris. J'ai lu dans des lettres des choses très belles, par exemple, « Je n'ai plus qu'un seul désir, devenir saint. J'espère que l'Esprit Saint, qui est celui qui nous sanctifie, va allumer encore plus dans votre cœur ce grand désir d'être des saints. » Et un saint, c'est quelqu'un qui dit oui à Dieu dans tous les moments de son existence, y compris à travers les événements les plus douloureux. Un saint, c'est celui qui vit l'Évangile dans sa vie quotidienne, malgré les épreuves, comme l'un d'entre vous me l'a écrit. Cet agir, c'est l'amour. Comme vous le dites, le sacrement de la confirmation consolidera mon amour fraternel. Il m'apprendra à aimer en vérité. J'apprends, me dit l'un d'entre vous, à pardonner à ceux qui m'ont offensé, même lorsque cela m'est difficile. Aimer pas seulement comme soi-même, mais aimer plus que soi-même, comme Jésus qui nous a donné ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, plus que moi-même, en donnant ma vie pour vous, lorsque vous étiez aimables, non, lorsque vous étiez pécheurs, c'est-à-dire mes ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Ce sont les commandements de Jésus. Humainement, c'est impossible. Vous le savez bien, moi le premier. Et précisément, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, comme dit saint Paul, par l'Esprit Saint qui nous a été donné pour changer la face de la terre et la renouveler par l'amour et l'amour en vérité. Et enfin, le dernier agir que le Seigneur attend de vous, c'est d'être des témoins, comme les apôtres remplis de l'Esprit Saint, de craintifs qu'ils étaient. Ils sont sortis sur la place publique et ils ont proclamé « Celui que vous avez crucifié et qui n'a pas crucifié Jésus dans sa vie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins et il a pardonné nos péchés. » Et il nous a ouvert les portes de la vie éternelle. Soyez des témoins, soyez des apôtres, comme vous le dites vous-même. Je veux répandre la bonne nouvelle. Je veux porter l'Évangile autour de moi. Je veux transmettre aux jeunes cette possibilité de le rencontrer. J'ai sincèrement envie de transmettre le message porté par l'Église catholique, même si, comme vous le dites aussi, ce sera parfois dans le combat, l'incompréhension des vôtres, qui penseront même que, parce que vous tournez vers le Seigneur, vous devenez des radicalisés. Ne soyez pas des radicalisés. Soyez des témoins par votre paix, par votre douceur, par votre amour, par votre pardon, de cet amour que le Seigneur veut que vous répandiez tout autour de vous. j'ai vu enfin que certains d'entre vous ont rencontré le Seigneur à Lourdes, devant la grotte de Massabielle, d'autres qui me disent combien la Vierge Marie est importante dans leur vie, d'autres qui disent que c'est lorsqu'ils disent le chapelet qu'ils connaissent l'apaisement et que leur foi grandit. La Vierge Marie qui était au milieu des disciples au jour de la Pentecôte, qui est là au milieu de nous, que nous voulons prier tous ensemble, chers frères et sœurs, pour ces confirmants, afin que leur cœur s'ouvre tout grand au don de l'Esprit Saint. Tous ensemble, nous disons « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. »